Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, en triga. Me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
La plus grande maternité de France, on pourrait penser que les accouchements se déroulent au mieux, et pourtant, Gwen a déménagé sur cette île française et a découvert sa grossesse au même moment. Une surprise car on lui prédisait des difficultés pour tomber enceinte. Avec son mari, il découvre la vie locale, les suivis de grossesse, un sage-femme formidable, mais aussi toutes les difficultés et la violence quotidienne qui règnent sur place. Son début de grossesse n'est pas simple, loin de sa famille, mais Gwen va prendre le pli et profiter des mois suivants. Puis elle va passer 3 jours dans cette maternité avant de donner enfin naissance à sa fille. 3 jours pendant lesquels elle va découvrir les inégalités de traitement, elle, blanche privilégiée, les conditions d'hygiène déplorables, le manque de moyens, mais aussi une formidable entraide entre les femmes. Bonne écoute.
Bonjour Gwen.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Bah, merci à toi de me laisser ce temps pour le faire, parce que vraiment je pense que ça va me faire beaucoup de bien.
Avec grand plaisir. Alors toi, tu as un bébé qui est assez récent. Quel âge a ton enfant ?
Alors, ma fille a 8 mois depuis quelques jours et elle pète la forme et elle est très dynamique. Et c'est un plaisir, mais c'est fatigant. C'était 8 mois merveilleux depuis sa naissance.
Ouais. Alors, on va revenir avant ça. Toi, quand tu étais plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité ? Est-ce que tu as toujours voulu être mère ? C'était viscéral ou pas du tout ? C'est arrivé un peu comme ça ?
Je pense que j'ai un tempérament plutôt maternel. Je suis l'aînée d'une grande fratrie, en fait, une fratrie recomposée. Donc, j'ai un frère de la même union que moi. Puis, du côté de mon papa, il y a eu 2 petites filles qui ont suivi, avec qui j'ai 12 et 16 ans d'écart. Donc, je suis vraiment une grande, grande sœur. Et du côté de ma maman, j'ai grandi avec les enfants de mon beau-père, avec qui j'ai aussi pas mal d'écart. Donc, voilà, je suis l'aînée d'une grande, grande fratrie. Avec beaucoup de plaisir, je me suis occupée de tout ce petit monde, enfin du monde d'une, surtout des filles, de mes 2 sœurs du côté de mon papa et du côté de ma maman, parce que c'est avec elles que j'ai le plus d'écart sans doute. Et du coup, j'avoue que fin adolescence, je me disais même que du coup, ça servirait pas à grand chose d'avoir des enfants parce que j'avais déjà mes bébés, quoi. Clairement.
Ah d'accord.
Donc voilà, je me disais, je me rendais déjà compte, je pense, de ce que c'était de s'occuper d'un enfant parce que je le faisais beaucoup, j'aidais au maximum mes parents, j'aimais bien ça en plus, donc ça m'allait bien. J'ai passé mon BAFA pour travailler auprès des enfants alors que j'étais encore adolescente, donc voilà, ça faisait beaucoup partie de ma vie. Et puis en fait, l'année de mon bac, l'été qui a suivi le bac, j'ai rencontré la personne qui est mon mari actuellement, qui s'appelle Charlie. À la fin de l'été, j'ai commencé mes études à Brest, lui à Grenoble, donc on est quand même relativement éloignés géographiquement. Et au bout de 3 semaines, il a tout plaqué pour venir s'installer avec moi. Et je pense qu'on a parlé bébé dans les semaines qui ont suivi. Et en décembre, on était fiancés.
Ah oui.
Donc, je pense qu'on a un peu... au final, c'était un pari risqué mais gagnant, vu qu'on a accompli à peu près tout ce qu'on avait imaginé à ce moment-là. Mais du coup, je pense que la maternité, elle est vraiment apparue à ce moment-là, quoi, où d'avoir quelqu'un avec qui le concrétiser, et puis quelqu'un qui s'occupe aussi merveilleusement bien des enfants. Il est prof maintenant, prof de PS en lycée, et il a un côté très pédagogue que j'admire énormément. Donc forcément, ça m'a fait rêver, quoi, d'une famille. Et puis, on l'a construit maintenant, donc c'est vraiment très chouette. Et entre temps, on m'avait dit que ça serait, d'un point de vue médical, ça serait peut-être compliqué d'avoir des enfants. Donc on a beaucoup parlé d'adoption.
Ah oui.
Et c'est plus ou moins aussi un projet qui est en cours. Et finalement, le jour où j'ai arrêté la contraception, le jour de notre mariage, je suis tombée enceinte ce jour-là. Donc, mauvais pronostic sans doute de la part des médecins. Et voilà, ça a été une surprise très agréable du coup en arrivant à Mayotte de découvrir que j'étais enceinte d'un petit mois. Et voilà, la maternité, elle est arrivée comme ça dans ma vie. Et ça aurait pas pu être autrement, franchement. On est très, 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 très heureux et très épanouis dans notre parentalité.
Alors, comment tu l'as vécu, toi, le fait qu'on te dise que tu pourrais potentiellement pas avoir d'enfant ?
Ça a été un petit peu difficile parce que je travaillais beaucoup avec les enfants. Ça a été mon job étudiant, en fait, pendant mes 5 années d'études. Donc, à chaque fois que je voyais les enfants et que j'avais des moments, parfois un peu de tendresse ou d'affection avec eux, je me disais, est-ce que je pourrais un jour l'avoir avec mes propres enfants ? Mais en même temps, le fait de venir d'une famille recomposée, je sais que du côté de ma maman, on n'a pas du tout le lien du sang avec, notamment avec du coup ma petite sœur, mais c'est ma petite sœur quand même et on se l'est toujours dit. Donc c'était pas une fatalité. Je savais que j'aurais des enfants, enfin qu'on aurait des enfants puisqu'on en parlait déjà à deux du coup. Je pouvais pas vivre une grossesse, je savais que j'aurais des enfants avec Charlie. Donc on a parlé d'adoption assez rapidement, je pense. Et je crois que enfant, je parlais déjà d'adopter des enfants à mes parents. Donc c'était pas il y avait une certaine logique presque, enfin c'était pas je pense que même si sans ça on aurait parlé d'adoption, et le fait est qu'on continue à en parler, on entame plus ou moins des démarches, c'est un peu long mais on est quand même sur ce chemin-là alors que il y a une grossesse qui s'est passée entre-temps et il y en aura peut-être d'autres plus tard, mais sur le coup un petit peu un coup dur, puis c'était dit la matière, bon, ça a été dit on me disait que j'avais le temps, de toute façon, parce que je devais avoir 19 ans l'année où on me l'a annoncé, donc ça semblait quelque chose d'un peu flou, d'un peu abstrait encore, alors que je pense que nous, on en parlait déjà beaucoup et les médecins s'en rendaient pas forcément compte. La gynécologue qui me suivait, c'était la gynécologue de la fac, en fait, et du coup, elle était habituée à avoir des étudiantes qui sont pas du tout dans l'optique de devenir maman. Et nous, on savait que si, par hasard, j'étais tombée enceinte, on savait très bien que ça serait une grossesse qu'on aurait menée à terme et qu'on aurait fait famille, même si ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Voilà, ça faisait, c'est ce qui faisait sens pour nous. Donc voilà.
Et alors, tu découvres ta grossesse, complètement le contraire de ce qu'on t'avait prédit. Comment tu réagis en découvrant que tu es enceinte ?
En fait, on s'est mariés le 10 juillet et on a dû arriver à Mayotte le 5 août, je pense. Et moi, j'ai jamais eu un cycle très régulier. Et du coup, j'avais déjà eu plusieurs faux espoirs dans l'année en me disant « Ah, oh, je suis peut-être enceinte ». Et puis du coup, là, comme j'avais un petit retard de règles, je me suis dit « Cette fois, tu te fais pas un film, tu prends le temps de voir ce qui arrive. » Parce que t'as quand même eu le gros stress du mariage, suivi du gros stress du déménagement. Gros stress aussi de commencer un nouveau boulot. Parce que du coup, en arrivant à Mayotte, je commençais comme enseignante dans une école Montessori, ce que j'avais jamais fait de ma vie, donc j'étais un petit peu stressée. Et d'ailleurs, la semaine de pré-rentrée où j'ai découvert les lieux, découvert mes collègues, installé ma classe, j'avais énormément de nausées. Et en fait, je me disais, putain, t'es vraiment stressée à ce point, ma cocotte, va falloir te détendre avant l'arrivée de tes élèves parce que sinon, ça va être compliqué, quoi. Et le samedi, on dormait chez un ami de copine, enfin, on n'était même pas chez nous. Et avant que tout le monde se réveille, j'ai dit à Charlie, tu vas acheter un test parce que je veux en être sûre, parce que là, ça me trotte trop dans la tête, ça m'empêche d'être pleinement dans ma préparation de rentrée. Et donc, on n'est pas chez nous, tout le monde dort encore, on est dans la salle de bain. Et il m'a ramené 3 tests, j'ai fait 3 tests d'affilée. Et à chaque fois, il y a 2 barres roses pétant bien visibles. Et on est sur le cul, puis on est loin de nos familles. Ça nous paraît fou, quoi. Et juste, on se regarde et on est là. On rigole à moitié, on sourit, on se fait des câlins, on se fait des bisous. Et puis, moi, ma meilleure copine, une de mes meilleures copines, en tout cas, habitait déjà à Mayotte. Et du coup, on a foncé chez elle. Et puis, je lui ai dit, oh, je t'ai ramené une surprise. Et hop, j'ai sorti les 3 tests et on a pleuré. Et puis, mon amoureux, il était le plus heureux du monde, je pense. Il était tellement dans l'euphorie que le soir, sans faire exprès, il l'a dit devant 10 personnes, des gens qu'on venait de rencontrer, avec qui on faisait un repas, et devant tout le monde, il a dit, non, elle fera pas de plongée tout de suite, parce que quand on est enceinte, on peut pas faire de plongée. Et tout le monde se retournait vers nous. Il y avait certaines personnes qui étaient à la fac avec nous. Alors tout le monde se retourne, ah, t'es enceinte! Et j'étais, oui, maintenant, on a plus trop le choix, on l'annonce. Et puis voilà, on n'avait pas trop parlé du fait que j'avais j'aurais potentiellement des difficultés à avoir des enfants, donc ça a pas surpris trop les gens finalement autour de nous. Mais nous, on était, enfin, je planais complet. La suite a été un peu plus dure parce que les nausées, elles ont duré non-stop pendant 3 mois. J'ai perdu pas mal de poids, genre 4-5 kilos, et je suis déjà un petit gabarit, donc ça a été un peu compliqué. Et j'ai quand même un peu déprimé. J'ai fait une dépression prénatale là sur le premier trimestre, un peu costaud. Le fait d'être loin des proches, je pense que ça a joué aussi. Et au final, dès que je suis sortie du premier trimestre, en fait, d'un seul coup, j'ai senti le bébé bouger. Et là, j'ai regain d'énergie, tout allait super bien. Donc juste le début qui a été un peu compliqué, et ça s'est combiné avec nos débuts à Mayotte. Et il y a eu donc les premières vacances scolaires. Et en fait, avant les vacances scolaires à Mayotte, il y a généralement des gros mouvements de violence chez les jeunes. Et donc, ça a été la première période où on a connu ça, ce début de grossesse. Et on habitait dans un quartier qui s'appelle Bonovo, à Nsapere, et qui fait le lien, en fait, entre deux quartiers rivaux. Donc, quand il y avait des affrontements, c'était dans notre rue quasi directe. Pour situer un peu, dans cette rue, il y a 3-4 maisons, et sinon, c'est du bidonville quasiment partout. Je pense que c'est bien de planter le décor, parce que on se rend pas trop compte. Je pense qu'en France, il y a une île qui peut ressembler à ça, quoi. Alors, il y a le lagon, c'est merveilleux, il y a plein de choses incroyables, hein, mais il y a aussi surtout une énorme pauvreté, et c'est ce qui est à l'origine de la violence aussi. Et donc sur ces premières vacances, enfin la dernière semaine avant les vacances, il y a eu des affrontements très violents avec un gamin de 14 ans qui est mort quand même, donc un truc vraiment lourd. Et quand il y a ce type d'affrontement, la police intervient à coups de bombes lacrymogènes, et donc nous, comme on était dans une maison, on pouvait tout bien calfeutrer. Mais dans les bidonvilles, les bengas, c'est des cabanes en tôle, en fait. Et bah, tous les bébés hurlaient, en fait, à cause de la lacrymogène. Et je pense que ça a vraiment marqué le début de ma grossesse, parce que je me suis dit, putain, mais c'est pas juste, quoi. Ça a été vraiment le premier moment, je pense, difficile sur Mayotte, où on s'est dit, c'est ça maintenant notre réalité, et c'est la réalité de milliers de personnes. Personne le sait. Et là, cette année, donc on est... Je crois que c'était je sais pas si c'était sur octobre ou novembre, on a un petit peu entendu parler en métropole de ce qui se passe à Mayotte, des affrontements, mais ça, c'est depuis des années que ça dure, en fait. C'est pas quelque chose de nouveau. Quand on y a habité, on le sait, quoi, on s'en rend bien compte. Et ça a été, voilà, le moment un peu difficile de ce début de grossesse. C'est cette première, après il y en a eu d'autres, hein, mais la première a été vraiment impressionnante pour nous, parce que les bombes lacrymogènes, ça fait vraiment des détonations, t'as l'impression d'être en zone de guerre. Et j'avoue que dans mon petit patelin de Bretagne dont je suis originaire, j'avais jamais entendu ça, quoi. Donc, ça et les bébés qui pleurent en arrière-fond, ouais, un peu dur. Un peu dur pour nous et.
Impressionnant.
Et un peu dur de se projeter aussi avec un bébé dans cette situation, quoi. Voilà. C'était notre réalité à Mayotte.
Et alors, pourquoi vous avez décidé de vous installer à Mayotte, justement? Quel était le projet de quitter la Bretagne pour Mayotte?
En fait, donc mon mari, il est prof de PS, et en début de carrière, il n'y a pas énormément de choix possibles. Les jeunes profs, une fois qu'ils ont leur concours, ils sont envoyés dans les zones géographiques où il y a le moins d'enseignants, il y a le plus gros besoin d'enseignants. Donc c'est région parisienne, Mayotte, Guyane. Et quand il était tout petit, tout bébé, ses parents ont fait un voyage là-bas, et il en a toujours entendu parler, donc il avait envie de partir là-bas. Puis moi, j'avais pas eu l'occasion de faire un Erasmus sur mes études, et j'avais très envie de. On avait déjà fait des petits voyages, enfin des gros voyages même au Brésil notamment, et on avait envie de continuer à voyager. Donc s'expatrier, ça nous paraissait quelque chose qui pourrait nous correspondre. Et dans l'année où il fallait qu'il fasse sa demande, une de mes super copines, la première à qui j'ai annoncé ma grossesse, en fait, a su que son compagnon de l'époque était muté là-bas. Donc on s'était dit que c'était un signe du destin, qu'il y avait sans doute quelque chose qui nous attendait là-bas et que fallait tenter notre chance. Et dans la foulée, il y a 2-3 copines de fac de mon chéri qui sont parties aussi là-bas comme professeurs de PS. Donc on y allait avec quand même une petite bande, on était assez entourés. Heureusement d'ailleurs, je pense, parce que devenir parent en étant isolé, c'est quand même pas facile. Et là, on avait quand même une jolie petite troupe autour de nous pour nous soutenir et nous écouter quand ça allait pas trop. Et voilà. Donc, je pense que je crois pas au destin. Enfin, c'est pas quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Mais là, je m'étais dit, il y a quand même des gros clins d'œil qui nous disent « Allez à Mayotte, quelque chose vous attend là-bas ». Donc, et en effet, quelque chose nous attendait là-bas, c'était un bébé. Donc, on a bien fait. J'aurais sans doute eu un bébé, même si on n'y allait pas. Mais c'est l'expérience qui... enfin, couplée à la maternité, c'est vraiment l'expérience la plus incroyable, la plus enrichissante de ma vie. Je ne pourrais jamais regretter de l'avoir vécue. Et la preuve, c'est qu'on a parfois envie d'y retourner, malgré les violences qu'il peut y avoir là-bas. Donc voilà.
Et tu savais, avant de partir, justement, qu'il y avait toutes ces violences. Comme tu dis, on n'en parle pas trop en métropole.
Oui, on était au courant, on s'était beaucoup renseigné et on y était allé 3 semaines en fait, comme ma super copine. Elle s'était installée 1 an avant nous, on avait eu l'occasion de partir 3 semaines pour prendre la température, mais on était logé sur... En fait, Mayotte, c'est composé de 2 îles, Grande Terre et Petite Terre. Donc, Petite Terre, c'est relativement plus tranquille et on était logé là-bas sur le temps de nos vacances. Et puis, entre partir en vacances et y vivre, il y a aussi une différence. Quand on est parti, c'était pas la période, par exemple, où il y a des coupures d'eau. Faut savoir qu'à Mayotte, sur une bonne grosse partie de l'année, il y a 1 à 2 jours par semaine où il n'y a pas d'eau courante dans certains secteurs parce que ils sont pas en capacité de produire assez d'eau. Donc voilà, ces genres de choses en vacances, on s'en rend à peine compte quand on y vit sur du long terme, d'autant plus avec un bébé. Voilà, de devoir faire des réserves d'eau dans des bidons pour pouvoir se laver, pour pouvoir cuisiner, c'est une charge mentale supplémentaire. Pareil, le fait de, en termes d'alimentation, c'est quand même plutôt restreint, c'est beaucoup d'importations. Sur les vacances de 3 semaines, on s'en fout. Et puis, sur du long terme, ça peut peser un petit peu plus. Mais on était au courant, bien sûr, des violences qu'il y avait. On s'était vachement renseigné. Mais on espérait, en fait, obtenir un poste dans le centre de l'île, sur la côte, là où c'est relativement tranquille. Et en fait, on a été très déçus le jour où on a eu l'avis de mutation de mon compagnon, parce qu'il était vraiment... Alors, Mamoudzou, c'est la plus grosse commune. C'est un peu la capitale. Et c'est là qu'il y a le port qui permet de rejoindre Petite Terre et Grande Terre. Et donc, il travaillait vraiment au sud de Mamoudzou, dans un quartier qui s'appelle Kaweni. Du coup, j'ai trouvé mon poste d'enseignante ensuite dans ce même quartier. Et on habitait au nord de Mamoudzou, donc dans le quartier de Bonovo à Msapéré. Et c'est normalement 15 minutes de trajet quand il n'y a pas de bouchons. Mais par exemple, pour aller au boulot, il y a tellement de bouchons que c'est 1h30 de trajet si on est en voiture. Donc, un peu moins quand on est en scout. D'ailleurs, au début de ma grossesse, on a eu un accident de scooter parce qu'on n'avait pas encore notre voiture. Parce que quelqu'un a jeté un four sur la route sur notre passage. Voilà le genre de choses qui peut arriver à Mayotte, par exemple. C'est quelqu'un qui voulait faire un barrage routier pour bloquer les voitures et qui nous a fait tomber au passage. Voilà, c'est le genre de petite aventure qui a jalonné notre vie là-bas et du coup ma grossesse. Bon gros stress, hein. Je rigole là maintenant sur le coup, j'ai pas du tout rigolé, j'étais vraiment très inquiète.
J'imagine.
Mais bonheur dans mon malheur, ça m'a permis d'avoir un rendez-vous d'urgence avec je pense, le meilleur sage-femme de la Terre, objectivement, qui après m'a suivie du coup pendant toute ma grossesse. Donc j'étais suivie en libéral. Il y a possibilité d'être suivie au CHM, donc dans l'hôpital de Mamoudzou, mais ils réservent un maximum de places pour les personnes qui n'ont pas la sécurité sociale, parce qu'il y a énormément d'immigration sur l'île et beaucoup de femmes des autres îles des Comores. Parce que donc Mayotte, ça fait partie de l'archipel des Comores, d'un point de vue géographique, mais pas politique, puisque Mayotte est restée française quand les Comores ont voulu l'indépendance, puisque les Mahorais le voulaient, il y a eu un référendum, tout ça. Et donc, il y a beaucoup de Comoriennes qui viennent accoucher à Mayotte, et du coup, ils gardent un maximum de place pour ces femmes qui n'ont pas la sécurité sociale dans l'hôpital. Donc, j'ai été suivie en libéral. Et vraiment par une personne, mais si un jour Étienne entend ça, merci Étienne, ça a été ma lumière dans la grossesse, franchement, un super sage-femme, vraiment, vraiment merveilleux. Et plusieurs de mes collègues sont passés par lui, quand elles étaient enceintes, et tout le monde a le même retour, il est génial. Donc voilà, ça a été vraiment très bien d'avoir, parce que l'hôpital, c'est pas tout à fait ça, donc heureusement que dans notre suivi à côté, c'était vraiment, vraiment très, très chouette.
Et alors, comment s'est passée ta grossesse? Est-ce que tu avais un suivi particulier? Comment ça se passe là-bas?
Du coup, j'avais rendez-vous tous les mois avec mon sage-femme. Il n'y avait pas de cours de préparation à l'accouchement. Alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la parentalité. Donc, j'étais déjà relativement renseignée. Et on a décidé d'être accompagnée en plus par une doula à distance. Et on a réussi quand même à force de demander plusieurs fois au sage-femme, il a trouvé 2-3 jeunes couples qui étaient intéressés aussi par un cours de prépa à la naissance, mais c'était vraiment du basique, où est-ce que le bébé, il est dans l'utérus, à quoi est relié le cordon ombilical, enfin des choses que nous on maîtrisait à peu près.
Ah oui.
Et apprendre à changer des couches, pareil, ça je savais à peu près le faire. Donc ça nous a pas forcément aidé, mais c'était quand même intéressant de rencontrer des parents qui étaient du coup mahorais. Et c'était rigolo parce que je pense qu'en métropole, on avait 23 ans du coup, on aurait été parmi les plus jeunes parents du cours. Et là, on était les plus âgés. parce qu'il y a vraiment énormément de grossesses précoces. La plupart des élèves de Charlie avaient un enfant, parfois deux, ou étaient enceintes sur leur lycée. Donc voilà, c'est un autre contexte, hein, totalement différent. Et du coup, c'était intéressant d'avoir. Et puis pour une fois, ils étaient ultra surpris, les deux sages-femmes qui animaient ça, parce que les papas sont venus. Les jeunes papas sont venus alors que ils étaient persuadés que Charlie serait tout seul, comme il a été tout seul à chaque rendez-vous, enfin le seul homme parmi toutes les femmes à la maternité, partout il n'y avait que lui. Bah là ils sont venus et du coup ça a permis aussi d'échanger, et un des jeunes, c'était un élève du lycée en fait, qui l'a reconnu après, donc c'était un peu particulier, mais c'était quand même enfin moi j'en ai un bon souvenir, même si j'ai pas appris grand chose au-delà des rendez-vous. Du coup j'avais une échographie par mois. Alors, je pense que c'est pour remplacer les touchés, parce qu'ils ne faisaient pas du tout toucher. Alors que mes copines qui ont des enfants en métropole, elles ont régulièrement dans la grossesse. Et là, ils n'en pratiquent pas du tout dans le cabinet où j'étais. Donc, on avait une petite échographie par mois. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Franchement, de pouvoir voir mon bébé aussi régulièrement. Alors, certains me disent, oui, mais bon, c'est pas très bon pour les bébés, les échographies. Bon, bah, nous, ça nous allait finalement. C'était vraiment des moments, des bouffées d'oxygène, quoi, de ces rendez-vous. Et à côté de ça, j'avais donc une prise de sang par mois aussi, parce que j'étais pas immunisée contre la toxo. Et alors ça, c'est un délire aussi, le laboratoire pour les prises de sang à Mayotte. Alors déjà, moi, j'ai dû passer sur la sécurité sociale mahoraise, la CSSM, parce que Mayotte est un département français, mais la départementalisation se fait sur 30 ans. Donc, il n'y a pas les mêmes droits qu'en métropole. Donc, il fallait que je passe là-bas pour pouvoir être remboursée. Donc, j'ai la première prise de sang, où il y a toutes les grosses sérologies, tout ça. J'ai banqué 178 euros pour avoir mes résultats. Et après, du coup, une fois que j'étais passée à la CSSM, c'était différent. Mais il y a plein de trucs où ça change, parce que, par exemple, pour le congé paternité, ils ont le droit de le prendre. Donc, mon compagnon avait le droit de le prendre, mais il n'est pas rémunéré. Parce que le code du travail est appliqué, donc ils ont le droit de prendre le congé, mais c'est la Sécu qui donne les indemnités et c'est pas les mêmes droits. Donc voilà, c'est un des exemples de variantes où t'es pas au courant, ça peut impacter quand même un petit peu ton vécu, quoi. Parce que bon, comme il était dans la fonction publique, il a réussi à négocier avec c'est l'Éducation nationale qui a pris en charge son congé parental du coup, mais c'est le genre de choses où faut vraiment avoir envie de se foutre la tête dans les papiers pour apprendre tout ça. Une fois que j'étais à la CSSM, j'ai fait toutes mes petites prises de sang, mais dans le labo, ils ont une chaise de jardin sur laquelle tu es assise pour faire ta prise de sang. Et voilà, en termes d'hygiène, c'est pas oufissime. Et ça, c'est encore avant d'arriver à la maternité, parce que là, c'est vraiment, vraiment compliqué, quoi. J'ai fait le rendez-vous des 9 mois à la mater, et ils te demandent de faire un auto-prélèvement et un test urinaire. Dans mon souvenir, il y avait une quarantaine de femmes qui attendaient. Donc ça doit être ça tous les jours, quoi. Tous les matins plutôt, parce que c'était que le matin, je crois. Et un seul toilette pour tout le monde, qui n'est pas nettoyée entre chaque passage, et qui visiblement n'est même carrément jamais nettoyée, parce qu'il y avait une couche de poussière comme ça sur le dessus des toilettes. Et il n'y a rien pour poser ton matériel. Donc, tu as dans une main ton écouvillon pour faire un auto-prélèvement vaginal. Dans l'autre main, tu as ton petit bocal pour faire ton petit pipi. Et faut te débrouiller avec ça pour faire ton prélèvement et ton échantillon d'urine. Voilà, c'est le genre de truc. En métropole, je ne suis pas sûre que ça se passe vraiment comme ça. Mais enfin, je ne jette vraiment pas la pierre à l'hôpital en soi, parce qu'ils font bien ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Il n'y a pas assez de personnel, que ce soit pour l'entretien, le ménage, ou de personnel médical. Je crois qu'ils ont à peu près, parce que j'ai des copines du coup qui étaient sages-femmes, elles sont à peu près 80. Et pour pouvoir avoir un taux d'encadrement à peu près similaire à ce qu'il y a en métropole, il faudrait qu'elles soient le double. Donc voilà, c'est ça pour... Il y a quand même une trentaine de naissances par jour. C'est l'équivalent on dit que c'est l'équivalent d'une classe qui naît tous les jours à Mayotte, dans cette maternité, parce qu'après, il y a les dispensaires qui ont aussi des maternités, mais qui sont pas de niveau 3, il n'y a pas possibilité d'avoir la péridurale, tout ça. Donc, c'est quand même un joyeux bordel, c'est un peu l'usine, cet hôpital, et il y a des trucs qui... Bah, moi, je sais, parce que je sais qu'en métropole, c'est différent, donc je sais que c'est pas normal, mais il faut quand même se dire que je me demande même comment ça peut être dans les îles des Comores à côté, si les femmes comoriennes viennent pour accoucher dans cet hôpital-là, qui du coup, à mes yeux, c'est vraiment... on est quand même limite, quoi. C'est qu'elles ont vraiment des conditions encore pires, quoi, sur les autres îles, parce que pour risquer, à 9 mois de grossesse, de prendre une petite barque pour traverser, je crois que c'est une 40aine de kilomètres en barque, pour venir accoucher à Mayotte, il faut quand même avoir sacrément besoin, quoi, d'un accompagnement médical digne. Et je trouve que là, on est à la limite de la dignité. Et encore, c'est que le rendez-vous des 9 mois, parce qu'après, l'accouchement, ça a été encore un autre truc, quoi. C'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante que tu me donnes un minimum la parole, parce que jamais je me serais doutée qu'en France, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est la France, Mayotte, c'est un département français. Comment en France, on peut laisser des femmes accoucher dans ces conditions-là, quoi? Et comment on peut laisser du personnel médical travailler dans ces conditions? Et j'ai encore, je pense, de la colère, en fait, en moi par rapport à cette situation. Je trouve ça tellement injuste. Et encore, moi, ça s'est plutôt... Enfin, j'ai pas eu de complications, mais... malheureusement, c'est pas toujours le cas, quoi. Il y a des histoires, j'ai entendu des histoires, heureusement que je les ai entendues après mon accouchement, parce que sinon, je pense que j'aurais été terrorisée à l'idée d'accoucher là-bas, quoi. Mais bon, j'étais relativement en confiance, hein. Je sais pas, ma famille me disait rien, mais maintenant que c'est passé, ils me disent, mais nous, on était ultra stressés, quoi. Et toi, jusqu'au dernier moment, mon accouchement a duré 3 jours. Je suis arrivée le jeudi, j'ai accouché seulement le dimanche. Et pendant 3 jours, ils m'ont dit, mais tu nous envoyais des messages jusqu'au dernier moment, t'avais l'air ultra détendue, t'étais pas stressée, alors que nous, on était... on disait, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Voilà. C'était Mayotte, quoi.
Alors justement, Mayotte, c'est la plus grande maternité d'Europe, si je me trompe pas.
Ouais. Alors je crois qu'il y a Dublin qui fait à peu près concurrence. Mais je pense qu'à Dublin, ils ont pas tout à fait les mêmes moyens qu'à Mayotte. Mais en termes de nombre de naissances, ouais, c'est la plus grosse maternité. Alors, puis en plus, moi, on m'a dit, t'as eu la bonne idée d'accoucher 9 mois après le Ramadan. Parce que donc Mayotte, c'est en grande majorité des musulmans. Et donc, les couples sont plus ou moins séparés pendant le Ramadan. Et à la fin, bah, ils sont très heureux de se retrouver. Et du coup, 9 mois après la fin du Ramadan, il y a beaucoup de petits bébés, quoi. Et du coup, 9 mois après le Ramadan, bah, la maternité, elle est encore plus, encombré, si on peut dire ça comme ça. Et par exemple, j'ai un copain qui bossait en néonat et il y avait 30 places normalement en néonat, ils avaient 60 enfants à la période où j'ai accouché. Donc j'étais quand même, j'avais très très espoir que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas besoin de passer par la néonat parce que voilà. Donc, moi je suis arrivée jeudi soir, il devait être minuit à peu près, parce que j'avais perdu un petit peu, enfin j'avais l'impression d'avoir perdu du liquide, donc c'était le cas. Et donc, on m'a fait un monito pour commencer. Tout allait bien. Donc, ils m'ont installée dans une chambre en grossesse pato. Et je me suis retrouvée, du coup, avec une dame qui était déjà là depuis 2 jours. Et dans la nuit, il y a une autre dame qui est arrivée. Donc, on était 3 dans la chambre, dans une chambre qui est normalement faite pour 2. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient ajouté un lit entre les 2 lits. C'était moi, le milieu. Et à Mayotte, la plupart des gens parlent un petit peu français, mais leur langue maternelle, c'est le chimaoré. Et donc moi je comprends pas le chimaoré, j'avais pas eu le temps de beaucoup apprendre la langue, et donc elle parlait entre elles, et je sais que parfois elle parlait de moi parce qu'elle disait l'amzungu, et l'amzungu c'est la blanche, la métropolitaine, donc moi j'étais au milieu, toute seule, parce que entre midi et 19h les conjoints n'ont pas le droit d'être là. Donc la première nuit je l'ai passée toute seule, entre ces 2 nanas, je comprenais pas ce qui se passait, j'étais là 10 jours avant mon terme, donc je m'étais dans ma tête, j'avais encore le temps pour accoucher, et là j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là? La salle de bain était toute pourrie, moisie, bon, j'avais pas trop imaginé ça comme ça, je pense. Moi, tout le monde me dit, oh, tu verras, ça va super vite, il y a des chances que t'accouches dans le couloir parce qu'il y a tellement de monde, ça va super vite, tout ça. Et en fait, c'était le regard des soignants. Forcément, pour eux, ça va super vite parce que, bah, ils sont à la chaîne, à bloc. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça très, très long. Encore une fois, je leur jette pas la pierre, hein. Franchement, ils font un travail incroyable. Et j'ai retenu le prénom de toutes les sages-femmes que j'ai vues parce que du coup, en 3 jours, j'ai eu le temps d'en voir plusieurs et je les ai recroisées en plus certaines après. Enfin voilà, c'était génial. Et du coup, on était 3 dans cette chambre. Le lendemain, en gros, on m'a dit, bon, bah, vous avez 48 heures pour accoucher naturellement. Après, on vous déclenche. En métropole, jamais on laisse 48 heures. Alors, c'était pour moi une chance parce que j'avais très, très envie de faire un accouchement physiologique au maximum. Mon rêve, c'était d'accoucher dans une piscine, à la maison. C'était pas possible à Mayotte parce qu'il y avait aucun sage-femme à le faire. Mais voilà, je voulais me rapprocher au maximum de ça. Déjà, il y a un seul ballon pour toute la maternité. Donc, on oublie la baignoire pour prendre un bain si t'as mal. Enfin, ça, on oublie, hein, c'est pas la peine. Et donc le lendemain, à 7h, j'ai vu que ma copine de chambre, elle avait de la visite. Donc j'ai rappelé mon mari et je lui ai dit « En fait, tu vas réappliquer, j'ai pas envie de rester toute seule. » Et du coup, on s'est baladé dans l'hôpital. J'ai marché dans tout l'hôpital, toute la journée. Je faisais les escaliers 3 fois en me disant « Allez, le travail va commencer » parce que j'avais pas encore de contraction, mais je perdais toujours un peu de liquide. Et en fait, à 19h, on lui a dit « Bon, bah monsieur, faut y aller. » Et 19h05, on m'installe au monito et j'ai ma première contraction et ça commence toutes les 5 minutes. Et du coup, ma doula, elle m'avait dit, tu verras si normalement, au bout d'une heure, toutes les 5 minutes, si t'es à la maison, tu vas à l'hôpital, quoi. C'est que ça commence à... Donc moi, je me suis dit, ça y est, c'est pour cette nuit. Ma mère était... C'était prévu que ma mère prenne l'avion ce jour-là. Donc je l'appelle et je lui dis, bah écoute, c'est possible qu'à l'atterrissage, t'es une petite fille, quoi. Et je rappelle mon mari, je lui dis, bah en fait, tu viens, tu me laisses pas toute seule. Je m'en fous qu'on me mette que si on n'est pas encore en salle de naissance, je veux pas être toute seule. Là, je pense que j'ai eu un petit coup de flip quand même d'être toute. Enfin, les sages-femmes, elles ont pas le temps de rester à côté de toi, de te parler. Et puis, du coup, mon chéri a fini par arriver. Bah, à 5h du matin, j'avais toujours des contractions tous les 5 minutes et j'étais à peine à 1. Donc là, je me suis dit, ah, en fait, ça va être plus long que prévu. Et pour savoir que je suis à 1, c'est. On me fait un toucher devant les 2 dames qui sont dans la chambre, quoi. Il n'y a pas un rideau, il y a.
Ouais.
Et ces genres de conditions, je me dis, ça non plus, c'est pas juste, en fait. On devrait avoir le droit à une intimité. C'est pas juste qu'on ait à accoucher dans ces conditions-là, quoi. Ce qui fait que je comprends aussi que les maris soient pas autorisés toute la journée, parce que bah j'aurais eu encore moins envie d'avoir un toucher s'il y avait les 2 maris au bout du lit en train de regarder ce qui se passe, quoi. Bon, c'est logique. Et puis bah du coup j'ai passé cette nuit, cette première nuit dans les couloirs avec Charlie, sur le parking, à marcher, à faire mes exercices de respiration. Et arrivé à 5h du matin, j'en pouvais plus en fait. Et j'aurais dit mais là, enfin je vais pas tenir comme ça très longtemps, quoi. Je suis épuisée. Et donc on m'a proposé un substitut de morphine pour passer la fin de nuit, qui donc c'était une piqûre en intramusculaire dans la fesse. Je savais même pas que c'était possible. Pareil, je me retrouve donc cul nu devant mes 2 copines de chambre. Et en fait, ça a été légèrement surdosé. Du coup, j'ai déliré complet. Mais alors, je voyais tout autour de moi devenait des pièces de puzzle qui s'envolaient. J'ai dit des trucs. Du coup, ils ont autorisé mon mari à rester parce qu'ils ont bien vu que je commençais un peu à déconner. Et je lui disais, oh, les bébés, ils s'envolent. Mais c'est pas plus mal, ils finissent pas en prison. Et là, lui, il a flippé un peu. Il s'est dit, putain... Elle déconne, quoi. Et à un moment, je lui ai dit, oh, je suis défoncée. Ah ouais, je lui ai dit, je suis défoncée, je suis complètement défoncée. J'ai dit, il faut pas une deuxième dose, hein, je vais devenir toxico. J'ai pleuré en disant, je veux pas être toxico. Hein. Et à 9h, ils lui ont demandé de partir. Moi, je me suis endormie. À midi, du coup, il a pu revenir. Il était allé chercher ma maman à l'aéroport entre-temps. Du coup, j'ai pu la voir à l'entrée de la maternité. J'ai pu voir ma maman et mon frère qui l'accompagnaient. Donc ça m'a reboosté un petit peu. Puis je gérais un peu mieux les contractions. C'était toujours très régulier, mais j'avais pu dormir, ça allait mieux. Et donc je reprends ma marche à travers toute la maternité avec mes exercices respiratoires, mon mari qui me fait des petits massages. Enfin voilà, je me dis cette fois c'est bon. Et en fait, à 22h, je suis de nouveau au bout du rouleau, je n'en peux plus. On me dit, oui, prenez une douche chaude. Alors, il n'y a plus d'eau chaude dans les douches, par exemple. Ça, c'est un autre exemple de truc où je me dis, mais enfin, c'est pas normal quoi, qu'il n'y ait plus d'eau chaude dans les douches. On me demande si on peut avoir de l'eau bouillante dans une gourde pour faire une bouillotte, pour mettre dans le bas de mon dos. Ah bah, désolé, la machine, elle fonctionne qu'à 7h du matin pour les petits déjeuners. On ne peut pas faire bouillir d'eau, on ne peut pas faire chauffer d'eau. Donc là, je commençais un peu à perdre patience, je pense. Et donc, j'ai eu Estelle comme sage-femme à ce moment-là. Qui m'a trouvé une chambre toute seule, parce que du coup, j'oralisais pas du tout, je verbalisais pas du tout, parce que avec les 2 dames à côté, j'osais pas vraiment. Et on m'avait dit, mes copains qui sont du coup dans le milieu médical là-bas m'avaient dit que les Mahoraises, en général, elles restent jusqu'au dernier moment à la maison, et elles veulent pas la péridurale non plus, c'est vraiment refusé, parce que il y a la grosse légende urbaine de on peut rester paralysé à vie et tout ça, donc il y a pas de. On m'avait dit pour un accouchement physio, du coup normalement ça devrait aller parce qu'on fait pas beaucoup de péri à Mayotte. Et on m'avait dit tu verras, tu seras bien, on va bien s'occuper de toi parce que en gros on parle un peu du syndrome de la méditerranéenne en métropole en disant que les femmes méditerranéennes souvent on loupe certains symptômes parce que on dit que c'est culturel qu'elles crient et du coup quand elles ont très mal et qu'elles crient on pense que c'est normal. Là c'est un peu l'inverse à Mayotte, on dit elles savent accoucher, elles ont 6 ou 7 enfants donc. On s'en occupe. Donc, en général, ils s'occupent plus des métropolitaines. Il n'y en a pas des masses à rester accoucher à Mayotte. Mais on m'avait dit, tu verras, tu seras bien, bien chouchoutée. Et en effet, c'est moi qu'ils ont sorti de la chambre pour mettre dans une chambre toute seule, alors qu'ils ont laissé les deux autres dames ensemble. Donc ça aussi, je me dis, enfin évidemment, moi ça m'a arrangé, mais c'est pas normal non plus, quoi. Pourquoi j'ai eu un traitement de faveur Et d'ailleurs, les Mahoraises qui font un peu plus de réclamations, qui appellent régulièrement les sages-femmes, ou alors qui crient, qui pleurent, ils les appellent les mzunguettes. Donc mzungu, c'est la blanche, la métropolitaine, et les Mahoraises qui en font un peu trop, c'est les mzunguettes, quoi. Donc ça montre bien qu'on les prend pas non plus, on les prend pas des masses au sérieux non plus, quoi. Et donc je me retrouve dans cette chambre toute seule avec avec Charlie. On me dit, voilà, ça y est, il y a une chambre, enfin une chambre. Une salle de naissance qui est disponible, parce que le problème aussi, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une salle de naissance de disponible pour pouvoir poser la péri. Parce que là, à partir de ce moment-là, j'ai eu, en gros, 48 heures de contraction. À ce moment-là, le projet physio, tout ça, on était passé à autre chose, quoi. J'ai dit, la péri.
Envolée.
Et c'est tout. Et puis, bon, bah, 15, 20 minutes passent, on vient me voir. Vous êtes vraiment un tout petit 3, mais bon, on accepte quand même la péri. Par contre, en fait, ça sera dans une heure, parce que la salle de naissance est pas dispo. Et je pense que j'ai attendu encore 2 heures parce que je suis arrivée à minuit en salle de naissance. Donc j'ai poireauté encore 2 heures où il se passe pas grand-chose à part j'attends quoi. Et on me demande une fois arrivée dans le couloir où il y a les salles de naissance, on me demande d'aller aux toilettes. Et je rentre dans les toilettes et il y a du sang partout sur la cuvette, par terre. Et là je me dis il y a quand même une épidémie de syphilis. Le sida est aussi très très répandu quand même sur Mayotte. Et je me dis, mon col est ouvert, je vais m'asseoir sur des toilettes comme ça. Enfin, là, je me dis, il y a danger, quoi. Je pense que après coup, je me dis, comment après, je sais pas, genre, ça devait faire 36 heures de contraction, comment j'ai eu encore ce truc de me dire ça. Et du coup, je me suis retrouvée à nettoyer à 4 pattes dans les toilettes, à nettoyer la cuvette avec du PQ et du savon pour les mains, parce que c'est tout ce que j'ai trouvé dans les toilettes. Et puis, ma sage-femme m'attendait de l'autre côté de la porte et elle m'a raccompagnée presque en me portant, parce que j'en pouvais plus jusqu'à l'autre salle. Où j'ai enfin eu la pause de la péri. Alors là, par contre, franchement, l'équipe, mais enfin incroyable. On m'a demandé plusieurs fois si j'étais sûre de mon choix, parce qu'ils avaient lu mon projet de naissance. Vous êtes sûre que vous n'aurez pas de regrets? On peut attendre encore un petit peu. Enfin, voilà. Ils ont été vraiment très patients. Ils m'ont fait un schéma sur un petit papier pour m'expliquer où est-ce qu'ils allaient piquer, les sensations que je devrais ressentir. Ça a vraiment. Là, je me dis pour à quel point c'est une course pour eux. Au quotidien, et que là, ils prennent le temps de faire ça, j'ai vraiment été reconnaissante. Je leur faisais vraiment confiance, du coup, totalement à partir de ce moment-là. Et donc, on me pose la péri, j'ai pu me poser sur le côté, et j'ai accouché sur le côté. J'avais vraiment pas envie d'accoucher sur le dos, j'étais pas du tout à l'aise dans cette position. J'avais du coup ma super sage-femme qui m'accompagnait pour me mettre sur le côté, c'était vraiment chouette. Et après, ils sont partis. Parce qu'il y avait d'autres accouchements à côté, je me suis retrouvée toute seule avec mon mari parce que j'étais toujours à 3, donc c'était pas pour tout de suite. Et donc il devait être 1h du matin quand tout a été posé, et à 8h ils sont revenus, changement de service, et elle me dit, mais en fait vous êtes toujours à 3. Et là je me suis dit, bon bah c'est mort, on va me déclencher, en fait c'est pas possible, ça bouge pas. Elle me dit, mais votre poche n'est pas percée, elle a été légèrement fissurée, mais elle est pas percée, c'est pour ça que le travail n'avance pas. Et donc on m'a percé la poche à ce moment-là. 45 minutes après, j'étais à dilatation complète. Et
ah oui.
J'en ai plus ou moins parlé depuis avec des sages-femmes. Et je pense qu'elles savaient qu'il fallait me percer ma poche pour que ça avance. Mais il n'y avait pas de salle de dispo. Donc,
ah là là.
J'ai attendu au maximum jusqu'à ce que vraiment j'en puisse plus et que je leur dise c'est maintenant parce que j'aurai plus d'énergie pour pousser et j'ai peur que là, ça ne se passe pas bien si on attend encore, quoi. Et du coup, elle m'a dit, est-ce que t'es d'accord pour que je perce manuellement la poche des os? Et je lui ai dit, vas-y. Oui, pas de problème. Là, et du coup, elle a percé la poche. Et puis, je pense qu'une heure après, j'avais accouché. En 3 contractions, j'ai poussé sur 3 contractions. La petite était là. C'est mon chéri qui a pu la récupérer. Enfin voilà, c'était vraiment ce moment-là. Et je pense que j'ai eu une péridurale très très bien dosée parce que je sentais mes contractions. J'avais pas mal, mais je sentais les contractions. Donc j'ai vraiment pu accompagner, même la descente dans le bassin, je sentais la tête de ma fille qui arrivait. Et c'est Charlie qui était le plus impatient, qui appuyait souvent sur le bouton pour appeler la sage-femme et lui dire « je vois les cheveux !» Et puis elle m'a laissé vraiment jusqu'au dernier moment avant de pousser pour que ce soit le plus court possible. Et voilà, enfin, c'était vraiment cette partie-là de l'accouchement a été, malgré les éclaboussures de sang au plafond, et l'ambiance est toujours quand même pas... la salle est vraiment pas... on n'a pas forcément envie d'y accoucher.
Ouais.
Mais ce moment-là, je pense que j'étais dans une bulle d'oxytocine qui m'a portée pendant 2-3 mois. J'ai l'impression, quand je regarde en arrière, mais j'ai plané pendant 2-3 mois sur un nuage, mais à 10 000, quoi. C'était merveilleux. Et donc, j'ai accouché le dimanche à midi 18, ma fille est née. Après donc un séjour relativement long. Et là, c'est posé la question, est-ce que je reste dans cette maternité ou pas? Parce qu'ils essaient de garder un maximum de place pour les femmes qui ont, par exemple, une hémorragie de la délivrance ou des bébés qui ont besoin d'être en néonat, ce qui n'était pas mon cas, parce que j'ai pas eu de complications pour le placenta. Je pense que je suis même pas sûre d'avoir poussé, parce qu'elle m'a dit d'ailleurs, oh bah comme une mahoraise, ça se fait tout seul. On revient encore à ce truc où il y a quand même cette image des mahoraises qui savent accoucher, et c'est incroyable. Et moi, tout allait bien, vraiment. Du coup, on m'a juste dit d'aller aux toilettes. Je suis allée aux toilettes. J'ai mis du sang partout et je me suis dit, pense à la prochaine femme qui va passer par là. Et donc, j'ai re-nettoyé les toilettes où j'avais mis un petit peu de sang partout. Et après, on m'a mis dans une ambulance. Et 4 heures après accoucher, j'étais dans un bateau pour partir sur la maternité de Petite Terre avec mon bébé qui venait de naître dans un petit cosy fourni par la maternité, là. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? J'étais encore un peu shootée, quoi, par tout ce qui venait de se passer. Et je voyais là, j'étais sur donc on appelle ça la barge, le bateau qui fait des allers-retours, qui fait la navette entre Petite Terre et Grande Terre. Et je regardais le lagon autour et je me disais, waouh, genre, ça y est, j'ai accouché à Mayotte. Et là, je suis déjà dans le lagon avec mon bébé. Et voilà, c'était vraiment incroyable. Et arrivée à l'autre maternité, du coup, celle de Petite Terre, elle venait d'être refaite, en fait. Donc là, j'ai eu quand même, en termes d'hygiène et tout ça, c'est plus, une plus petite structure, il y a moins de passages. Voilà, c'était quand même beaucoup mieux. Et j'avais une chambre seule, ce qui était un peu le truc aussi où je me suis dit, ça veut dire qu'il va pouvoir passer la première nuit avec nous. Ça, c'était un peu le gros truc. J'avais très envie que Charlie puisse passer la première nuit avec nous. Et en fait, bah, 21h, on lui a dit, ah, mais monsieur, là, il est temps de partir. Et là, franchement, j'avais envie de chialer, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, pourquoi? C'est pas juste, quoi. Et il y a une autre sage-femme qui est passée et qui m'a dit, je prends la responsabilité, c'est important pour la création du lien d'attachement, rappelez votre mari. Du coup, dans la journée, il y avait ma maman et mon frère à être passés, il les a ramenés chez nous, donc il a fallu qu'ils reprennent la barge et qu'ils reviennent. Et il a pu passer cette première nuit avec nous. Et alors là, c'était vraiment... pareil, un nuage, quoi. On était sur notre nuage et c'était génial. Et j'ai fait que 2 nuits. Et la deuxième nuit, par contre, en fait, il y a une autre sage-femme qui a balancé à la cadre que mon mari avait passé une nuit avec moi à la maternité et que c'était pas normal. Du coup, il a été viré la deuxième fois. Et dans l'absolu, qu'il n'ait pas droit d'être là, je l'entends. Mais le problème, c'est que nous, on habitait sur Grande Terre et il n'y a pas de barge la nuit. Donc s'il y avait un problème pour moi ou pour notre fille, il pouvait pas nous rejoindre avant 6 heures du matin parce qu'il y avait pas de bateau pour venir. Et ça, ouais. On a fait un courrier du coup à la maternité en leur disant on peut comprendre que vous n'acceptiez pas le coparent sur la nuit, mais il y a quand même ça sépare quand même des familles de manière vraiment physique, quoi. Il y a un lagon entre les deux, quoi. Donc c'est pas possible. Et,
ouais, c'est pas rien.
J'espère que ça fera changer un petit peu leurs habitudes, sachant que c'est des chambres simples. Il y a un peu moins l'explication qu'il peut avoir sur le CHM, où là, en effet, quand on est 3 par chambre, s'il y a aussi 3 maris en plus, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai passé que 2 jours à la maternité après, et j'ai pu rentrer chez moi. Alors, il y a eu 2-3 différences avec la métropole. Par exemple, ils vaccinent les enfants contre l'hépatite, et je crois qu'il y a le BCG aussi. Donc, vaccination à la maternité, surtout nous, on avait demandé à ce qu'il n'y ait pas l'hépatite, parce que comme on a un bon... en fait, ils vaccinent un maximum d'enfants, parce qu'ils peuvent pas avoir de suivi médical derrière. Souvent, si c'est encore moins si c'est des mamans comoriennes qui viennent accoucher, après, ils repartent aux Comores, et même s'ils restent sur Mayotte, ils osent pas aller chez le médecin parce qu'ils ont peur d'être expulsés. Donc, il n'y a pas un très, très bon suivi médical. Donc, ils vaccinent un maximum les enfants. Et nous, on leur avait bien expliqué que... on était suivis et que normalement, c'était pas nécessaire. Et ça a été fait contre notre gré. Ça par contre, on n'a pas trop apprécié. Mais bon, c'est franchement, avec le recul, je me dis qu'il y a des problématiques encore plus importantes, quoi. Ce manque d'espace, ce manque de personnel, il conduit quand même à des fins dramatiques. Enfin, Là, dernièrement, il y a une maman qui était à un dispensaire, du coup, pour accoucher dans le nord de l'île. Elle a été envoyée par ambulance sur le CHM parce que, alors, je ne sais pas exactement pourquoi, sans doute peut-être le cœur du bébé qui ralentit, quelque chose comme ça. Dans l'ambulance, ils ne pouvaient pas avoir ni infirmière, ni sage-femme, aucun personnel médical à l'accompagner parce qu'ils étaient en manque d'effectifs. Elle a accouché sur le trajet, l'ambulancier lui a dit de serrer les jambes sur tout le trajet et elle a perdu son bébé. Et ça, je me dis, mais c'est pas normal que ça arrive, quoi. Que c'est intolérable que ça arrive. Et on est et encore une fois, on est en France. Et je me dis que si ça arrivait dans n'importe quel autre, si dans n'importe quel autre département, on avait une maternité avec cet état de saturation, ça se passerait pas. Enfin, alors je sais bien, hein, j'entends les sages-femmes en métropole qui ont aussi des conditions de travail qui sont loin d'être optimales et qui sont même néfastes. Mais je pense que là, on atteint encore un stade supérieur dans la négligence et qui n'est pas de leur fait. Je sais bien qu'elles voudraient faire mieux, mais voilà, c'est pas faisable avec les moyens humains qui sont disponibles, quoi. C'est malheureux, vraiment malheureux. Et je me dis que après coup, je me rends compte qu'on a eu énormément de chance, que ça se passe bien, qu'on n'ait pas de problématiques. J'en ai plein, hein, même des collègues de travail mahoraises qui m'ont dit « Mais nous, on est allé accoucher à La Réunion où on est parti en métropole pour ça. » Parce qu'on voulait pas prendre de risques, même si c'est une maternité de niveau 3, ils peuvent pas offrir la même chose qu'une maternité en métropole. Bon, bah nous, visiblement, on a pris le risque et ça s'est bien passé, mais à refaire, enfin, si je devais avoir un deuxième enfant maintenant, je suis pas sûre que je choisirais la maternité de Mamoudzou, quoi. À choisir, j'accoucherais ailleurs. Mais bon, on ne peut pas refaire ce qui a été fait et j'ai pas de regrets parce que on est très très heureux, mais bon, si ma voix pouvait être un minimum entendue, ça pouvait changer un petit peu pour le bien-être et la santé des femmes et des nouveau-nés, ça serait quand même incroyable, quoi. J'ai espoir qu'un jour, les choses évoluent.
Il y a des voix qui sont portées justement là-bas à Mayotte au sujet de la maternité ?
Non. Bah, en fait, le problème de la violence, il est tel que c'est la seule chose qu'on entend. Et alors, à juste titre, il y a tellement de jeunes qui meurent et puis bah dans des trucs ouais, j'ai pas envie de faire dans le détail trash parce que je pense que j'ai déjà assez parlé de sang et de coups et des trucs comme ça, mais il y a vraiment des trucs affreux, quoi, qui se passent. Donc déjà qu'on n'entend pas beaucoup parler de ça, alors pas entendre parler de la maternité, alors ça c'est peut-être mon côté féministe, hein, mais j'ai quand même l'impression que ce qui touche les femmes, ça reste des problèmes de second plan, alors que là, il est quand même question de santé publique. Genre, c'est l'origine même de la vie qui est mise en péril, quoi, avec des telles conditions pour la naissance. Donc, non, on en entend très peu parler. Le milieu scolaire est un peu remis en cause sur. Enfin, on entend un peu parler des difficultés, le fait que les élèves soient très très nombreux par classe. Le lycée où travaillait mon mari, c'est 2700 élèves, quoi. Et c'est ça dans quasiment tous les établissements scolaires. Le fait qu'il y ait peu de médecins, on en entend parler aussi. Je crois que moi j'étais enseignante en maternelle, donc j'avais besoin par exemple de suivi orthophoniste. Et il n'y avait plus aucun orthophoniste sur l'île à ce moment-là. Pour la MDPH, il faut attendre au moins 2 ans pour pouvoir avoir un rendez-vous. Nous, on n'a pas eu les rendez-vous pédiatres tous les mois par exemple. Les seuls pédiatres qu'il y a à Mayotte, c'est à la maternité et c'est en cas vraiment d'urgence en fait. Donc on a vu un médecin pour les 2 mois. Mon sage-femme, je suis allée le voir sur les 10 premiers jours, sur le premier mois en tout cas, j'y suis allée plusieurs fois, donc il a un petit peu observé ma fille au passage, mais il y a très très peu de médecins, donc ça on en entend un petit peu parler. Mais sur les conditions de la maternité, j'ai pas l'impression que ça choque grand monde, quoi. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de métropolitaines qui restent accouchées là-bas, et que depuis plusieurs générations, les femmes elles accouchent dans cet hôpital-là, c'est la norme, c'est normal en fait. Et alors, il y a quand même des points positifs que j'entends, parce que, par exemple, le fait qu'elles soient en chambre multiple, il y a des femmes qui ont déjà eu des enfants, qui savent faire pour l'allaitement, elles se conseillent beaucoup entre elles. C'est pas dans les habitudes, c'est pas dans la culture que le papa il vienne forcément à l'accouchement, mais il y a souvent la maman, une cousine, les tantes maternelles. Les femmes sont beaucoup entre elles. Et d'ailleurs, il y a une forme de mois d'or un petit peu, deux mois d'or même, parce que pendant 2 mois, normalement, la maman et le bébé ne sortent pas de la maison après l'accouchement. Et c'est les femmes de la famille qui prennent tout en charge, qui s'occupent d'elles, qui les nourrissent, tout ça. Donc, les chambres multiples, je suis pas sûre que ça dérange autant que ça a pu nous impacter. Parce que nous, on avait imaginé cet accouchement ensemble, on a fait un bébé à deux, jusqu'au bout, on est à deux, quoi. Voilà, je suis pas sûre que ça dérange autant, mais les normes d'hygiène, par contre, ça, c'est vraiment, pour moi, inadmissible, parce que, en termes de transmission de maladie, je pense que des toilettes qui sont jamais nettoyées, et surtout si on y va pour faire des prélèvements vaginaux et des trucs comme ça, je me dis, il y a quand même un souci, quoi. Voilà, il y a de très belles choses d'un côté et des trucs limite catastrophiques de l'autre, quoi.
Et alors, comment s'est passé le retour à la maison, les premiers mois de ta fille, la vie à Mayotte, en dehors de la maternité ?
Ça a été plutôt merveilleux. Sur les trois premières semaines, j'avais ma maman et mon frère, donc on a été bien aidés à la maison. Je crois que le lendemain du retour de la maternité, donc Louve avait 3 jours, on était au resto sur la plage, Nous, on n'a pas trop respecté les 2 mois d'or à la Mahoraise. Pour ces 1 mois, on était sur un bateau. Enfin, voilà, c'était vraiment, vraiment très, très chouette. Toutes mes copines qui ont accouché pendant le Covid m'ont dit, c'était trop bien. On n'avait pas trop de visites. On était tranquilles. Moi, j'ai adoré avoir tous nos copains à venir. On est les premiers à avoir des enfants. Enfin, un enfant, c'est déjà pas mal. Et du coup, ils sont tous venus nous voir. Et ça, moi, je trouvais ça génial de pouvoir la présenter à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés, suivis pendant la naissance, qui étaient là. J'ai commencé à perdre un peu les os à la plage, en fait. Et du coup, toutes les personnes qui étaient avec moi à ce moment-là, c'était vraiment génial de leur montrer ma fille. Ça faisait 3 jours qu'elles attendaient. Donc le début a vraiment été très très chouette. Puis après, on a eu la visite de la maman de mon chéri aussi. Donc pareil, on a eu de l'aide à la maison. Et comme Charlie, il est prof, il avait les vacances et il a réussi à étaler son congé paternité entre juste avant les vacances et juste après. Donc on a eu vraiment une grande période où on était ensemble, quoi. Et ça, c'était vraiment génial. Et je me dis, tout le monde mérite ça, quoi. Puis après, il y a eu l'enchaînement avec les vacances d'été, pareil, où il était à la maison. Et puis, c'est sur les vacances qu'on a déménagé, du coup. Et ça, c'était trop, trop bien. Franchement, donc, il y a eu mon suivi aussi donc avec mon sage-femme, qui était très, très chouette. J'étais trop heureuse de le retrouver, même après. Franchement, il me donnerait presque envie de retourner à Mayotte pour une autre grossesse, pour pouvoir être suivie par lui, parce que c'était trop chouette. Et il m'est arrivé un truc, je crois que je suis obligée de le raconter, parce que c'était trop drôle. J'osais pas trop allaiter en public, donc moi j'allaite toujours ma fille et j'osais pas forcément allaiter en public parce que même si c'est pas un islam, les filles elles portent pas le voile, elles ont un châle qu'elles peuvent enlever, elles sont autorisées à le porter même dans les établissements scolaires parce que c'est considéré comme une tenue traditionnelle et pas un signe religieux. Mais il y a quand même une certaine pudeur chez les femmes et j'osais pas forcément. Donc elles portent une tenue qui s'appelle le salouva et elles peuvent allaiter en dessous, je pense, discrètement. Mais moi, avec mes habits, c'était pas forcément possible et j'osais pas allaiter trop en public. Et une fois, chez le sage-femme, j'ai pas eu trop le choix. Il fallait que je donne une petite tétée à ma fille avant d'aller au rendez-vous. Et il y avait une femme très âgée, je pense qu'elle avait bien 80 ans, dans la salle d'attente et qui restait me regarder avec les yeux un peu plissés, les sourcils froncés. Je me disais, mince, je dois la mettre mal à l'aise Et au final, il y a 2 autres dames qui sortent du cabinet avec le sage-femme. Et donc, c'était sa fille qui avait la 60aine et sa petite-fille qui avait la 30aine. Et il y a que la plus jeune qui parlait français. Donc, la plus jeune part avec le sage-femme au niveau du comptoir où il rentre dans l'ordinateur des machins. Hein. Et je me retrouve face aux 2 femmes les plus âgées qui ne parlent pas la même langue que moi et qui restent me fixer avec leurs sourcils froncés. Et il y a Charlie, du coup, qui est assis à côté de moi, qui n'est pas super à l'aise non plus. J'avais quand même mis un petit linge pour me cacher et elles me font signe, elles miment de pincer leurs seins, en fait, comme ça. Et donc, je leur dis oui, j'allaite. Et elles s'approchent. Et là, je m'attendais, mais tellement pas à ça. Elles mettent leurs mains dans mon t-shirt. Elles sortent mes seins de mon t-shirt. Et elles se mettent à les palper. Donc, sans doute pour voir si j'avais bien du lait, s'ils étaient bien faits. J'étais tellement surprise que j'ai pas osé bouger. Je suis restée sur ma chaise, vraiment. Et Charlie, encore plus livide presque, il s'enfonçait dans sa chaise. Et en fait, là-bas, elle donne le sein en tenant le sein comme un biberon. Elles le tiennent avec la main, quoi.
D'accord.
Et donc, elles m'ont replacé, elles m'ont installé ma fille différemment dans les bras, elles m'ont mis le sein dans la main. Et en fait, elles voulaient me montrer comment elle était. Parce qu'elles ont dû se dire, elle a pas de maman pour lui montrer. Elle est chez le sage-femme avec son mari. Les hommes, ils ont pas grand-chose à faire ici. Elle sait pas faire, quoi. Et elles se sont reculées, elles ont fait un grand sourire, et hop, elles sont parties comme ça. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Après coup, on en a énormément rigolé. Et en fait, j'ai trouvé ça après coup. Je me suis même dit, mais c'était beau, en fait, cette transmission. Ouais. C'est pour ça que je comprends un peu mieux qu'elles peuvent apprécier d'être en chambre multiple, parce que il y a une espèce de matrilinéarité dans la transmission qui est super belle. Et ça, c'était vraiment un très beau moment. On a passé un super moment. Sur le coup, moyen, c'était un peu bizarre d'avoir ces quatre mains de vieille dame un peu fripée là en train de palper ma poitrine. Je m'étais pas trop préparée à ça. Mais après, je me suis dit, en fait, c'était super gentil, quoi. C'était vraiment un acte de bienveillance un peu maladroite que je vais garder en tête toute ma vie. Je pense que j'oublierai jamais ce moment-là. Ça, voilà. C'est le genre de truc, pareil, où je me dis que j'aurais jamais vécu si j'avais accouché en métropole. Donc, encore une raison pour ne pas avoir de regrets. Mais ouais, c'est moi qui ont suivi. On était vraiment assez intense parce qu'il fallait qu'on organise notre déménagement. En même temps, vraiment très, très chouette. Et aussi, on a eu des problématiques pour avoir les papiers d'identité de la petite qui sont arrivés après ce qui aurait dû être notre vol retour. Donc ça a été un peu compliqué, un peu vecteur de stress. Mais sinon, à part ça, c'était trop chouette, quoi. C'est un peu là, on a le... Puis ça s'est vachement calmé, en fait. Il y a eu vachement moins d'agressions sur ces mois-là. À part le moment où il y avait la maman de mon chéri, parce qu'il y a une fois où elle a dû rentrer en courant, elle faisait les courses, il y a des dames qui vendent, les bouénies, on appelle ça, les dames, elles vendent à manger sur le bord de la route. Et bon, elle était allée acheter des légumes avec mon chéri, ils ont dû rentrer en courant parce qu'il y a une bande de jeunes qui est arrivée pour... En fait, on appelle ça les caillassages. Ils prennent des gros morceaux de... Ils pètent des morceaux de béton, de parpaing et ils les balancent dessus, quoi, entre bandes rivales. Et si t'es au milieu, bonne chance. Ouais. Donc ils sont rentrés en courant. Donc il y a eu ce moment-là où ça a été un peu tendu, mais ça a seulement duré quelques jours. Et puis moi, je pense que à ce moment-là, j'étais tellement... franchement, hein, la bulle d'oxytocine de l'accouchement, moi, je suis restée dedans. Je pense que jusqu'en septembre, j'étais encore dedans, quoi. Et du coup, on a plutôt bien vécu ces premiers mois... Puis on a eu un bébé super calme qui a pas, bon, elle a eu quelques pleurs de décharge vers ses 2 mois, mais sinon, elle a pas eu de problème de colique, pas de reflux, l'allaitement s'est mis en place plutôt facilement, même si on a eu une période de muguet et des crevasses. Franchement, c'était anecdotique, quoi, parce que on faisait plein de choses avec elle, des randos pour aller voir une cascade, on était tous nos copains qui étaient tellement heureux pour nous, enfin voilà, c'était, ça a été franchement l'accouchement, j'ai l'impression que ça a été une espèce de tornade, quoi, où j'étais tornade très lente, mais de tornade quand même. Et puis d'un coup, l'apaisement au bord de la plage, le soleil. Puis j'ai pu aller la présenter à mes collègues et à mes élèves aussi à l'école. Et pareil, c'était génial, quoi, de oh, c'est le bébé qui était dans ton gros ventre. Et puis elle venait lui faire des petites caresses. Enfin, c'était super doux comme moment. Ça, pareil, comme mon cours d'allaitement, c'est des souvenirs que je vais garder précieusement toute ma vie. Toute ma vie, c'est sûr. C'était vraiment très beau. Et puis, on est rentrés et là, on a pu la présenter à toute notre famille. Et pareil, ça a été très, 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 très riche en émotions. Et voilà, les premiers mois de vie m'ont fait adorer tellement ma maternité que finalement, j'ai décidé de ne pas reprendre le boulot tout de suite et de prolonger mon congé. Mon congé parental, jusqu'à quand on verra. J'avais dit jusqu'en septembre, et puis finalement jusqu'en janvier, et puis finalement au moins jusqu'au 1 an. Mais vraiment, merci Mayotte quand même, malgré tout, malgré les frayeurs, la violence et tout ça, malgré les bouchons pour aller au boulot, il y a quand même eu de très très belles choses là-bas. Vraiment, vraiment.
Et à quel moment vous êtes décidée à repartir vivre en métropole? Qu'est-ce qui a motivé cette décision? C'était, tu me disais en off tout à l'heure, que c'était justement toute cette violence qu'il y avait.
Ouais, en fait, en décembre, les vacances scolaires sont organisées différemment. C'est seulement 1 mois et demi l'été pour que ça puisse être 1 mois en décembre. Donc, on est rentré à ce moment-là pour que nos familles puissent me voir au moins une fois enceinte. Et puis, je pense qu'on en avait besoin pour recharger nos batteries. Et en fait, en rentrant, moi, j'ai eu à Mayotte, j'ai eu une espèce d'électrochoc. Hein, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Il y avait eu du coup ces épisodes de violence un peu avant notre départ, et je me suis dit, pourquoi je veux élever ma fille loin de ma famille? Je pense que bon, il y a les hormones qui jouaient un peu. Tout était vraiment d'une intensité extrême, quoi. Je vivais tout à fond, quoi. Et je me suis dit, pourquoi je veux l'élever loin de ma famille, dans une situation qui est relativement dangereuse, quand Charlie va au rugby le soir, je suis ultra stressée qu'il rentre à la maison en me disant, tiens, mais est-ce qu'il va rentrer ou est-ce qu'il va tomber dans des caillassages. Enfin, voilà, c'était vraiment stressant et on savait en même temps qu'il n'aurait pas de poste en métropole ou alors peut-être en région parisienne. C'était trop tard pour faire les demandes. Donc, on se disait, de toute façon, on n'a pas le choix, on va devoir faire encore un an à Mayotte. Et finalement, il a vu qu'il pouvait aussi être prof de PS dans le ministère de l'Agriculture pour être donc dans un lycée agricole. Et comme il était passé par un lycée agricole quand il était lycéen, ça lui parlait bien. Et il a un peu fait une demande, mais on n'y croyait pas du tout. On était parti pour rester un an de plus à Mayotte. Et je crois que c'était pour les un mois de la petite, il a reçu un avis de mutation pour Castelnaudary. Et nous, on s'est dit, ah bon, bah il faut vendre la voiture, la moto, et on repart dans l'autre sens. Et du coup, on est reparti en juillet. Mais c'était un peu le petit, au petit bonheur la chance, quoi. On pensait pas que ça aurait marché. On pensait faire ça comme ça pour voir. Et rester au moins un an de plus. Et on a eu un petit pincement, gros pincement au cœur même, au final de partir, même si on se disait que c'était quand même le mieux. Puis là, vu ce qui s'est passé en octobre, novembre, où même nos copains qui ont toujours dit « Oh, ça va », quand il y avait des trucs de violence, là, ils ont eu un peu les pétoches. Donc on s'est dit « Bon, si même eux, ils sentent que le vent tourne vraiment, on a bien fait finalement sans doute de rentrer ». Mais on sait qu'on y retournera. C'est peut-être le fait que notre fille soit née là-bas, mais où du coup on s'est attaché à Lille. Mais même les enfants qui habitaient notre quartier, elles étaient géniales. Il y avait un petit groupe de gamines de 4-5 ans qui m'ont vue pendant toute ma grossesse. Et le bébé est né. Et alors comment elle s'appelle? J'aurais dit elle s'appelle Louve. C'était là, la maman de Louvre, la maman de Louvre, dès qu'elle me voyait ouvrir le portail. Et est-ce qu'on peut la prendre? Et donc, moi, j'avais peur de laisser mon bébé dans les bras de petites de 4-5 ans. Et elles me l'ont attrapée, elles se la passaient de bras en bras. Elles ont vachement l'habitude, en fait, de s'occuper des plus petits. Et j'adorais, malgré tout, c'est la petite rue où on habitait. Je trouvais ça génial. Puis même les propriétaires chez qui on était, ils habitaient juste au-dessus. Donc, on a quand même créé des liens avec eux. C'était chouette, quoi. Cette vie, puis nos copains aussi, évidemment, qui nous manquent énormément. Ouais, c'est très ambivalent, quoi, comme à la fois on est triste d'avoir laissé tout ça derrière nous, et à la fois, en tant que parent, tu penses à la sécurité de ton enfant. Je pense que si on n'avait pas été parents, on serait resté avec un bébé, c'est différent. Je me dis, une fois, on a failli se retrouver dans un caillassage, on a dû vraiment mettre un gros coup d'accélérateur pendant ma grossesse, et je me suis dit, putain, mais je veux pas vivre ça avec un cosy à l'arrière de la voiture et un bébé qui hurle, quoi. J'ai pas envie d'aller acheter mes légumes et de devoir rentrer en courant avec le porte-bébé parce que ça commence à chauffer et que... En fait, il y a eu un autre truc, je crois, qui nous a vraiment fait très peur. On a acheté, du coup, le petit lit en cododo à une voisine. Et cette voisine, elle avait eu des triplés quelques mois avant que nous, on ait notre fille. Et la première fois qu'elle est partie à la plage avec ses triplés, il y a un groupe de jeunes qui lui est tombé dessus. Ils ont mis la machette au-dessous la gorge d'un de ses bébés. Ils lui ont dit, de toute façon, si tu nous donnes pas tout ce que t'as, on tue ton enfant, en fait. Et ça, quand elle nous a raconté ça, j'ai eu des frissons dans le dos. J'étais enceinte, ah ouais. C'était vraiment sur la toute fin de ma grossesse. Et là, je me suis dit, OK, ça va pas, quoi. Et ça, c'est, voilà, on savait que si on voulait que quand tu fais des randos, parce qu'il y a beaucoup d'agressions pendant les randonnées, en fait, parce que comme c'est dans des trucs isolés, c'est des bandes de jeunes qui sont armés de machettes et puis, voilà, ils te bloquent le passage et t'as pas le choix, tu donnes ton téléphone, ton portefeuille et puis basse, quoi. On a eu de la chance sans doute parce que on n'a pas fait des masses de rando parce que j'étais enceinte, mais ça nous est jamais arrivé. On a des copains à qui c'est arrivé, c'est rude, quoi.
Oui, voir son bébé avec une machette sous la gorge.
Ouais, et on sait que, puis eux ils le savent, hein, ces jeunes, ils sont pas cons non plus, ils savent très bien qu'un parent, tu menaces son enfant, il donne tout ce qu'il a. Il n'y a jamais eu sur des agressions comme ça de meurtre, parce que tu donnes et puis c'est tout, c'est fini, et puis à la limite tu te fais un peu, peut-être il y a ceux qui essaient un peu trop, ils se font peut-être un peu malmener ou mordre par les chiens des jeunes, mais voilà, c'est pas, enfin c'est déjà beaucoup, mais même t'as pas envie de vivre cette peur là quoi. J'ai eu très peur une fois pendant un événement sportif. Il y avait un match de rugby entre Mayotte et La Réunion, et donc mon mari jouait. Et c'était vraiment un gros événement. Et du coup, il y avait tous les jeunes du club. Et le club, il réunit des jeunes de différents quartiers. Ce qui est ultra positif parce que c'est des quartiers qui normalement se font la guerre. Et là, au rugby, ils réussissent à créer des liens. Donc, c'est super. Sauf que le quartier où était organisé l'événement sportif, les jeunes de ce quartier-là, quand ils ont vu sur le terrain des jeunes du quartier opposé. En fait, d'un coup, je me suis retournée et puis à 2 mètres derrière moi, il y avait 15 jeunes qui escaladaient un grillage avec des armes à la main et pas des armes à feu. Hein. Il n'y a pas d'armes à feu sur Mayotte, c'est des armes blanches, quoi, et des grosses caillasses. Et je pense que j'étais enceinte de 7 mois et demi, j'avais mon chien en laisse et là, j'ai eu vraiment peur et je me suis dit, en plus, il va y avoir un mouvement de foule sur le terrain, je vais me faire, enfin, et j'en ai fait des cauchemars pendant longtemps de ce moment-là. Donc ce truc-là m'a fait peur. Et en fait, il y a un des gars du rugby, c'est un grand de leur quartier, donc il est allé et puis il leur a dit, par contre, on est là pour le sport, il a réussi à calmer le jeu et puis la fédération a dû appeler la police parce qu'il y a eu des détonations derrière, on nous a enfermés sur le stade et il y a eu des interpellations, je pense qu'il y a eu des interpellations derrière pour les jeunes qui avaient escaladé le grillage, quoi. C'est la seule fois où j'ai vraiment eu peur pour moi, quoi. Parce que dans notre maison, même si notre quartier était crignos, la maison était ultra bien sécurisée. Il y avait un jeune qui gardait la maison la nuit. C'était des murs très très hauts. Enfin voilà, je me disais normalement, on n'y craint pas grand chose. Et puis bah 7 mois de grossesse, tu peux pas courir quoi. Il fait 40 degrés. Tu sais bien que les jeunes, s'ils veulent t'attraper, ils t'attrapent quoi. Enfin voilà. Et là, je me suis dit ouais, je suis dans la merde. Mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Mais j'ai eu le temps d'avoir une bonne décharge d'adrénaline. Et je pense que mon mari sur le terrain aussi, parce que il a chopé les jeunes pour les mettre en sécurité. Après, il a fallu faire sortir les jeunes discrètement, les mettre dans des voitures pour les ramener chez eux. Enfin, c'est des trucs. Il y a des bagarres sur des événements sportifs en métropole. Je pense pas que ça arrive à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, c'est le genre d'événements qui nous ont poussés à rentrer.
Et depuis donc le retour, vous êtes en Bretagne, c'est ça ?
Alors on est dans le sud de la France, à Castelnaudary, là on est en Bretagne pour les fêtes. Et c'est un peu triste, mais parfois je me dis qu'on se fait chier. C'est un peu mou quoi, là quand on est à la campagne. Alors c'est bien pour... Bah ouais, c'est ultra calme, au début ça me faisait bizarre, il n'y a pas de bruit. Pareil, on était dans un quartier ultra bruyant, il y a toujours du monde dehors, il y a les poules, il y a l'appel à la prière, on était au-dessus de la rocade où il y a les ambulances qui vont vers l'hôpital, donc c'était ultra animé, pour les manzaracas et les mariages, et donc c'est des femmes qui chantent beaucoup et qui font de la musique avec des percussions en bois, et donc il y a la période des manzaracas où il y a les mariages et puis bah il y a les autres week-ends où elles s'entraînent et du coup c'est toujours ultra animé. Et là, on est dans notre petit village avec, je pense, pas mal de jeunes retraités, alors que Mayotte, c'est plus de 50% de la population à moins de 20 ans. Donc, c'est des enfants et des ados et des très jeunes adultes. Mmh. Et là, on se retrouve avec nos petits vieux et les champs de tournesol et de maïs. Et du coup, à la fois, c'est, je pense, bien pour nous et pour... C'est un cadre quand même sympa pour élever un enfant. Et en même temps, on sait qu'on va rebouger parce que c'est pas encore l'idéal pour nous. Déjà, il n'y a pas la mer... Du moins pas assez près, 1 heure de route c'est trop. Parfois on se dit qu'on retenterait bien l'expatriation, mais peut-être ailleurs, plus tard, on verra. Mais c'est une expérience qu'on aimerait bien offrir à notre fille aussi, ou à nos autres enfants si on en a plusieurs. Et puis bah, quand on parle d'adoption, parfois on se dit, si on adopte, on aimerait bien faire une demande d'adoption, si on a l'agrément en tout cas, on aimerait bien faire une demande d'adoption à Mayotte. Parce qu'on sait qu'il y a tellement d'enfants qui sont des mineurs isolés, en fait il y en a énormément. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de violence. C'est des jeunes qui s'organisent en bande, c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'ils n'ont pas trop d'autres choix non plus. Ils n'ont pas une thune, pas trop d'espoir d'avenir non plus, parce que le taux de chômage, j'ose même pas regarder. Et puis bon, ils n'ont pas tous les papiers, donc ils savent que de toute façon, ils ne pourront pas être embauchés. C'est le seul département où il n'y a pas le droit du sol, si tu veux. Donc c'est vraiment particulier. Et souvent, les parents, bah, ils se font choper et renvoyer aux Comores. Et les enfants, il n'y a pas droit de les expulser, donc ils restent. Alors parfois, ils sont plus ou moins pris en charge par une tante, voilà. Il y a plein de gamins qui se retrouvent tout seuls, donc les plus âgés leur disent de voler des téléphones et comme ça, ils peuvent s'acheter des fringues et à manger. Et puis voilà, enfin, elle vient pas de nulle part, quoi, cette violence. Donc,
oui, c'est de la survie, quoi.
Oui, c'est de la survie complète. Adopter là-bas, on a hésité. Si on restait, on aurait bien aimé faire famille d'accueil. Mais ça fait sens pour nous parce que c'est là que notre fille est née et que voilà, ça ferait sens d'adopter là-bas. Alors on verra, peut-être d'ici 4-5 ans, on sera de retour là-bas pour agrandir la famille. Et puis peut-être qu'entre-temps, on sera parti, je sais pas. Voilà. Disons que nos valises nous démangent un petit peu et on a déjà envie de rebouger. Donc on verra bien. Mais l'aventure n'est pas terminée, clairement pas.
Merci beaucoup Gwen.
Bon, bah, de rien, merci à toi encore une fois.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.